Hop là. Voilà. Hop là, c'est la musique de fond.
Je crois que là, on est en train d'expérimenter un blanc antenne assez fabuleux. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans Aleph, c'est la numéro 332, si je me rappelle bien, ce que j'ai marqué sur la feuille tout à l'heure.
282.
Comment ?
282.
282. Oula, moi, je suis fatigué, moi, aujourd'hui. 82, c'est bizarre, ça finit par un 2, comme la 232, d'ailleurs, et comme 52, dont je vous parlerai tout à l'heure, ça doit être pour ça que j'ai tout mélangé.
Il y a 50 numéros, de 50 trucs de retard, donc 52 plus 2, 52.
52 plus 2, 50. Mais pourquoi j'aurais 50 trucs de retard, moi d'abord ?
Non, tu nous as dit 232. Donc 232 plus 50, 282. Les deux finissant par un 2, 50 plus 2 égale 52.
Le compte est bon ! Donc. Voilà, donc.
Il y a des choses assez horribles dans mon casque, là, ça fait mal aux oreilles.
Oui, quoi ? C'est Tony qui parle, en fait.
Non, ah, non, d'accord.
C'est super fort.
D'accord. Bon, que toute méchanceté mise à part, nous allons commencer cette émission fabuleuse où nous allons vous parler de tas de choses. Bruno, qu'est-ce que tu nous as mis comme musique de fond ? On n'entend pas là.
Là, c'est.
Là, on reconnaît là. Et pourquoi nous as-tu mis cette musique de fond pour cet édito ?
Eh bien, parce que j'ai vu tout à l'heure sur le site discountmanga.com que le DVD, double DVD du film Esteban Ezia à la recherche des 7 cités d'or est sorti donc cette semaine. Et donc, j'ai juste vu le... Bon, j'ai lu le résumé, ça n'a pas l'air inintéressant. Par contre, j'ai vu la jaquette, ça a l'air très moche. Voilà.
D'accord. Donc c'est une
c'est
suite
vrai que la jaquette n'est pas très belle.
Bah apparemment oui, c'est une suite. Esteban a 17 ans, puis voilà, et puis il se fait arrêter parce que il a pas donné au roi une part de ses trésors, je sais pas trop quoi.
Donc ça se passe longtemps après la fin de la série, sans savoir quel âge en série d'ailleurs.
Je sais pas quoi avoir oui, 12 ans, un truc comme ça, non ?
Comme ça.
Ouais, 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 c'est pas grand pour un 12 ans, mais pourquoi pas. Donc
grand
voilà.
Pour un 12 ans, non, pour vraiment.
Donc un épilogue à la série ne devrait pas faire oublier la série, donc.
Bah, faut voir ce que ça donne, hein. Faut voir si quelqu'un l'achète, je veux bien le voir. On en parlera, mais en tout cas, au vu de la jaquette, ça a l'air très moche.
Voilà, quand on dit un truc comme ça, déjà, c'est mauvais signe. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Bruno ?
Donc,
toi qui
alors, ce soir, il va y avoir la revue de presse manga. Évidemment, avec Alain, Arnaud, pas
toi.
William, non, pas William, et moi-même. Et ensuite, je vous parlerai des contes de Terre-Mère, Tales of Earthsea, de Gorō Miyazaki, que j'ai enfin vu, dont je vais pouvoir vous en parler un peu. Et je suis le seul ici à l'avoir vu, ouais. Terre-Mère, ouais, bon, d'accord.
Oui, tout le monde l'a dit, oui.
Et donc ensuite. François vous parlera de Next Wave.
Voilà, série comics absolument délirante qui sort la semaine prochaine.
Et puis ensuite, tu nous parleras de 52.
Voilà, 52, autre série qui sortira la semaine prochaine, dans un style un peu moins délirant, mais très bon.
Ouais.
Voilà.
Attends, j'ai un petit blanc.
Donc tu as un petit blanc antenne, tu n'as pas encore réussi à caler la musique.
Non, le CD était mal mis.
Alors quelle est la BO de la semaine, Bruno, puisque...
Alors, la BO de la semaine, ça aurait dû être Terre-Mère, mais j'ai bêtement oublié le CD chez moi. Donc ce sera The Big Score, a soundtrack to the black films of the 70s. Voilà.
Tu peux me la refaire avec l'accent anglais ?
The Big Score, a soundtrack to the black films of the 70s.
Voilà, donc, ça fait accent anglais enrhumé, mais j'aurais pas fait mieux, donc on peut
Alors par contre, on ne m'a pas indiqué quelle piste je dois passer, donc je vais en prendre une au hasard. Hop, tiens, la 6, Freddy's Dead, Curtis Mayfield, voilà, on va commencer avec ça. Et puis ensuite, donc, on se retrouve pour la revue de presse manga.
Voilà, donc c'était Curtis Mayfield, Freddy is Dead, donc extrait d'une BO qui s'appelle The Big Score, donc qui est une sorte de soundtrack sur tous les films de Black Exploitation des années 70. Aucun rapport avec notre émission, j'aime bien simplement cette musique et donc je n'hésite pas à la faire passer quand j'ai l'occasion. Oui, je t'écoute Arnaud.
Non, je dis c'était un bon choix.
Voilà, exactement, je suis un homme rempli de qualité.
Pourtant c'était avant les années 80,
oui, c'était avant le grunge,
mais moi c'est juste les années 80.
Voilà.
Avant ça va, après ça va, mais avant.
Alors bienvenue donc dans Aleph, l'émission qui parle des musiques des années 70 et 90, mais pas des années 80. Non.
Plus sérieux, Bruno et moi, on est là quand il faut pour rappeler ce que les années 80 ont existé et ont fait naître la
musique. Il m'entraîne au bout de...
Voilà, j'ai dû couper le micro, excusez-moi. Voilà, donc plus sérieusement, nous sommes donc au moment tant attendu des sorties manga, puisque comme toutes les deux semaines en collaboration avec le bazar du bizarre, je vais te mettre le micro. Voilà.
Non, je disais comme mon micro, du coup, on dirait un corne de glace.
Oui, mais il sature, attention.
Ouais, il sature ton micro.
Ah, pas si près. Alors.
Voilà, tu as une présence trop puissante. Bien, alors, comme d'habitude, donc toutes les deux semaines en collaboration avec le bazar du bizarre, 19 rue des Teinturiers, 14 000 camps. Voilà, on vous présente une sélection des dernières sorties manga. Et il faut bien dire que cette sélection-là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands auteurs, enfin des grands noms. Alors, ont-ils fait de nouvelles grandes séries? On va le savoir tout de suite.
Nous allons en débattre.
Voilà, nous allons débattre autour d'un bon café et puis toute autre chose. Bref, donc on va se lancer tout de suite.
Il y a des témoins, tu payes le café.
Je peux payer le café, voilà. Ou alors du thé, il suffit de l'eau chaude et tout, on va trouver. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la revue de presse, avec la musique qui va nous accompagner pendant toute cette revue de presse, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est Final Fantasy VI.
Voilà.
D'accord.
Orchestré.
Non. Où? C'est la version Super NES.
Regardez que c'est.
Je trouve que le son est vachement clair, ça fait pas clavier bon tant pis pour une fois.
Voilà. Donc est-ce que ce premier thème a un titre particulier ou c'est...
Là c'est l'ouverture et va suivre le thème de Tina qui... Voilà.
Donc
qui,
que tous les amateurs...
Qui fait le générique de début.
Reconnaîtront. Alors comme je vous l'ai dit sur cette revue de presse, beaucoup de gros auteurs et on va commencer par le premier d'entre eux. Grosse réputation, de roman d'auteur pourrait-on dire, vraiment avec un esprit assez particulier. Je te laisse le présenter, Bruno.
Il s'agit de, donc tu dis un auteur, tu n'as pas donné le nom, il s'agit de Tsutomu Nihei. Donc Nihei qu'on a découvert avec Blam, qu'on a continué à fréquenter avec Snicked, son one shot sur Wolverine et Noise. Je crois que c'est tout ce qu'on a eu de lui jusque là.
Bah, disons que c'est un auteur qui a fait parler de lui, mais qui, paradoxalement, n'a pas produit beaucoup. Ou alors pas beaucoup de choses en France, en tout cas.
En France, surtout, parce qu'il y a eu... Il y a plusieurs one-shots qui sont sortis au Japon. Il y a aussi un autre one-shot qui est sorti en France. C'était en 2001. C'est un bouquin qu'il a écrit exprès pour Soleil Manga. Et qui a été distribué à 666 exemplaires.
Oula, c'est la pièce rare.
D'accord.
C'est la pièce de collection.
Oui, ça s'appelle comment ?
Et je ne sais plus le nom exact, c'était un titre assez compliqué. C'est une histoire d'un nounours, je crois, avec des zombies. Je sais plus exactement. C'est...
Ok, ça place un peu quand même un peu l'univers, hein, donc de Tsutomu Nihei. Et surtout là, tu vas nous parler d'Abara, dont le tome 1 vient de sortir.
Donc Abara, je l'ai acheté à la sortie, je l'ai lu et comme j'ai une petite mémoire, je ne m'en souviens pratiquement plus.
Je peux raconter. Si tu
veux. Vas-y, raconte.
Moi, je l'ai acheté aussi à la sortie, mais je l'ai revisé un peu hier, donc je trichais. Donc en fait, c'est l'histoire, ben, un peu comme dans Blame, je dirais. C'est un peu un monde apocalyptique qui se situe après une grande civilisation.
C'est un peu différent.
C'est lui qui raconte d'abord. C'est lui qui raconte avec quatre souvenirs. Vas-y, commence et ensuite il objectera après.
Ouais, enfin, disons qu'on, enfin, je veux dire, il y a un principe commun, c'est on est dans un monde où en fait où les hommes vivent.
C'est du cyborg, pas une.
Voilà, avec des grands bâtiments qui sont là. Plus personne ne se souvient qui les a construits. Avec un monde, oui, donc vraiment cyberpunk, où c'est, on voit que les gens ont l'air assez pauvres, et puis le style de Niei, il fait que le dessin est très torturé, disons très très sale dans le trait, je trouve, bien qu'étant net en même temps. Donc il a l'air dessiné les cités futuristes un peu détruites. Voilà, donc ça place un peu le monde. Et puis là, on va arriver dans au départ une scène un peu banale, dans une scène où des ouvriers travaillent et où une femme vient chercher un des ouvriers. En lui racontant quelque chose sur son passé qu'on ne comprend pas très bien. Et là, donc, en fait, apparemment, un monstre surgit et à partir d'un homme, et réussit un genre d'homme parasité. Et donc, elle le charge plus ou moins d'aller le tuer, quoi, en fait. Et donc, on va voir que lui aussi se transforme, un genre d'exosquelette apparaît autour de lui, et donc il va essayer de combattre ce monstre. Avant qu'une organisation secrète. Fasse son apparition pour faire un peu le ménage là-dedans.
D'accord. Alors, quels sont les points que vous retenez de ce manga? D'abord, est-ce que vous avez aimé ou non?
Moi, j'ai adoré. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais.
Je dirais que sur ce qu'on a lu de Niei, c'est pas son plus grand manga. Hein.
Non, c'est sûr. Oui.
C'est très confus quand même, faut le dire. C'est propre à Niei, c'est d'être confus. Mais
au début, c'est confus aussi.
Oui, mais bon. Quand on a lu 9 fois Blame, au bout d'un moment, on est habitué au style de Niei. Mais là,
9 fois quand même.
Ah oui, non, mais à chaque relecture de Blame, tu découvres un autre niveau de lecture. C'est ça qui est formidable.
D'accord.
Je crois que j'ai pas encore tout exploré. Il faut que je le relise une deuxième fois. Non, donc là, dans un baraï, il y a quand même beaucoup de choses un peu confuses. Donc je crois que c'est pareil. Hein, il va falloir le relire plusieurs fois. Mais ça va. Là, c'est pas 10 volumes, c'est 2.
D'accord. Ok.
Voilà. Et puis, bah, on retrouve donc toujours ce talent qu'a Niei à construire des univers qui tournent autour de bâtiments et de villes vraiment. Des grosses structures, des gros bâtiments, on a un sentiment d'oppression. Effectivement, ça, bon, il a cette capacité à créer des villes et des bâtiments de par son métier premier qui était architecte.
Et puis il y a quelque chose que j'aime bien dans son style, c'est que bah, par exemple, on va suivre un héros pendant quelques pages et il va mourir d'un seul coup. Quoi. Je veux dire, on est vraiment dans un univers très noir où l'action arrive d'un seul coup.
Voilà, c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer étant donné qu'il n'y a aucun code dans un manga Niei. C'est du tout et du n'importe quoi. Et lui, il maîtrise son scénar. Alors après, il faut rentrer dedans parce que lui, il le maîtrise, mais nous, on n'est pas obligé de maîtriser sa narration. Oui. Donc, il faut bien rentrer dedans pour comprendre un Niei. Mais bon, bah sinon, dans l'ensemble, ça se lit bien. Je vois que c'est marqué dessus, recommandé par Sifi, la chaîne de la science-fiction.
Waouh.
Voilà. Je ne connaissais pas cette chaîne.
Ouais, c'est Sci-Fi Channel. Ça doit être la chaîne américaine de science-fiction.
Exactement.
D'accord.
Oui. Ils ont une branche française maintenant.
Ah bon.
Voilà. Pour résumer, pour aimer Niei, ben faut aimer donc les univers cyberpunk, donc avec une atmosphère glauque, des organisations secrètes un peu partout, des sortes de méga corporations qui écrasent un peu tout le monde.
Et puis des monstres qui partent avec des ailes très très squelettiques.
Disons qu'il y a une dimension gigerienne, je dirais, donc dans le dessin et les scénarios et qui rejoint, bah, pour ceux qui connaissent les films Alien, on a vraiment des monstres organiques, comme ça, quoi. On est vraiment dans cette dimension-là. Donc avec un dessin extrêmement assuré, extrêmement dur. Par contre, les visages des personnages sont vraiment très très bien faits, d'une pure beauté.
Oui, puis on voit qu'il s'est encore amélioré depuis Blame, parce que les visages des personnages sont de ces personnages sont de plus en plus Ils se différencient de plus en plus. Oui, voilà, voilà, ils sont de plus en plus singuliers. Mm. Alors qu'au début, dans Blame, bon, bah, faut, je veux dire, Killy, il avait la tête bateau, quoi. Mm-hmm.
Donc, par contre, donc, pour Abara, en tout cas, ce que moi je retiens du premier volume, bah, il faut aimer les histoires un peu bah, de conspiration. Voilà. Voilà, où on ne vous explique pas tout. Moi, ce qui m'embête un peu sur Abara, donc j'en attendais beaucoup parce que, bah, nié, je ne suis pas vraiment fan, mais il est vrai que Blame est quand même assez impressionnant comme œuvre. Donc, forcément, quand quelqu'un comme ça sort encore une œuvre, on s'attend toujours à ce qu'il fasse, ça aille encore plus loin, encore plus haut, encore. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de combats dans le premier volume. On n'a pas le temps de nous expliquer grand-chose, non pas parce qu'il n'y a pas la place, mais parce qu'il y a trop de baston. Mmh. Et là, ça me fait un peu peur. Je me dis que dans le deuxième volume, on va tout nous expliquer. Et là, on va pas pouvoir en sortir. On va se payer des pages d'explications, quoi. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Donc je suis un peu déçu. J'ai l'impression que l'histoire est pas très équilibrée, mais encore une fois, faut peut-être voir le volume numéro 2. Moi, je trouve juste que c'est vachement bien dessiné. Enfin, que le dessin est très maîtrisé, mais qu'il y a beaucoup de combats. Donc on se perd un peu dans son style graphique. Des fois, on sait pas trop.
Le problème avec Niei, ce qu'il y a, c'est que son style est très bien pour le contemplatif. Dans Blame, ce qui est magnifique, ce sont les scènes où Killy marche tout simplement dans la méga structure, et c'est purement contemplatif. Après, quand il fait des scènes d'action, il faut rester au moins 30 secondes sur le dessin pour lire le dessin. C'est pas comme n'importe quel shonen où on traverse les pages, on comprend tout ce qui se passe. Vraiment, Niei, il faut s'arrêter sur le dessin, il faut lire le dessin, repérer tout ce qui se passe sur le dessin avant de passer au dessin suivant. C'est une lecture vraiment très différente de d'habitude.
Voilà, donc il y a beaucoup de personnages, peut-être beaucoup trop pour un volume, un truc, une histoire en deux. J'attends. J'étais là, je fais ouais, d'accord, il y a quand même beaucoup de bastons, pas beaucoup de développement de personnages, alors qu'il y a beaucoup de personnages qui interviennent. Il y a au moins 3 ou 4 forces différentes qui sont sur l'histoire. Il y a le personnage principal est un personnage un peu mystérieux. Merde, enfin, au bout d'un moment, c'est voilà. Donc je ne sais pas, je vais attendre le numéro 2. Bah, au moins, bah, le mérite, c'est que c'est court.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc on n'aura pas à se poser la question bien longtemps.
Donc
c'est bien pour découvrir le style de Nié, je pense.
Non, je pense qu'il vaut mieux commencer par Noise.
Ah oui, oui.
Donc Abara, donc ça sort chez Glénat et ça coûte 6,50€.
Alors ensuite, je vais vous parler du Quartier de la Lumière, écrit et dessiné par Inyo Asano. Donc là, grand auteur. Voilà, donc
inconnu. Inconnu au bataillon, mais pourtant grand auteur après
l'écriture. Grand auteur. Après l'avoir lu, je trouve que c'est un grand auteur. En fait, on va suivre 4 ou 5 petites histoires de personnages qui habitent dans le quartier de la Lumière, donc une petite cité d'une ville. Ces histoires vont s'entremêler, en fait. Et en fait, on peut plus ou moins deviner que c'est l'histoire d'un mangaka qui imagine des choses sur les personnages qui vivent autour de lui dans cette cité. Donc bah, la première histoire, ça va être justement peut-être l'histoire de ce mangaka là, qui fait le tour de son quartier avec sa copine qui est enceinte, qui va rencontrer donc les différents personnages qu'on va suivre dans la suite du volume. Donc il va y avoir des histoires sur un petit garçon qui est un peu désabusé puisque sa mère est morte, son père est un peu fou et il adore une fille qui est un peu de soucis de famille aussi. Et bah, ce qu'il a trouvé à faire, bah, c'est un peu accompagner les gens au suicide. Donc ceux qui ont envie de se suicider, un peu il le contacte et lui il va les aider à passer le cap. Voilà.
À sauter le pas, je dirais moi.
Voilà. Et donc bah, bon, grande histoire d'un gamin, mais c'est on arrive à rentrer un peu dans la tête d'un enfant qui voit pas du tout la chose de la même façon qu'un adulte.
Donc, quand on est au bord du gouffre, on va le voir et il nous aide à faire un grand pas en avant.
Voilà, c'est ça.
C'est la petite masse secourable qui te donne la petite tape en plus.
Voilà. Ce qui te manquait pour sauter, quoi.
Voilà.
Donc voilà, c'est un peu triste comme histoire, un peu mélancolique sur la jeunesse, sur l'enfance, autour de ces deux personnages, quoi, qui sont une jeune fille et un garçon.
Il y a plein d'autres personnages en fait.
Il y a plein d'autres, mais voilà. Donc après, on va suivre une autre histoire sur. Attends, ça c'était la plus longue en fait. Après, après, une histoire qui dure quasiment pas longtemps sur deux filles qui vont se raconter un peu leur vie. Il va y avoir l'histoire aussi sur
une petite frappe, comme on peut dire, un petit loubard du quartier, quoi, qui essaye de se faire des thunes en faisant quelques agressions, en faisant des vols, et puis en essayant de monter un coup fumeux, donc sur la fin. On a su comme ça des histoires.
Donc en fait, le personnage principal, c'est avant tout le quartier où ils habitent.
Voilà, c'est une histoire autour de ce quartier, des personnages singuliers qui peuvent y vivre.
Voilà, dans chaque histoire, les personnages secondaires peuvent être les personnages principaux de l'histoire d'après.
Voilà, c'est ça qui est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment très entremêlé d'une histoire à l'autre. Il y a quelque chose qu'on n'aurait pas compris dans une des premières histoires, mais on va la comprendre dans la suivante.
Voilà, et en même temps, les histoires peuvent se lire indépendamment les unes des autres.
Voilà, c'est ça qui est vraiment très fort. C'est pour ça que je trouve que vraiment c'est un grand auteur, Inyo Asano, parce qu'il réalise vraiment quelque chose de très bien fait, de construit du début à la fin, de très simple. Enfin, c'est
avec beaucoup d'amour pour l'humanité, voilà. Je dirais.
Il y a de l'amour pour le quartier, un peu pour les hommes, même s'ils sont désespérés. Enfin, c'est pas du tout sombre, bien que les histoires sont dures, c'est pas très sombre comme histoire, quoi. C'est vraiment très très beau, j'ai trouvé.
Voilà, et en plus, le dessin est vraiment très agréable.
Voilà, donc c'est un style qui est pas un manga classique, donc avec des traits de personnages qui sont plus humains que. Qui sont assez humains, voilà. Donc, à la fin, j'ai vu qu'ils étaient inspirés de l'auteur de Dragon Head un peu, enfin, qu'il a rencontré pas mal de mangaka pour finir son histoire. Et c'est vrai que je trouve que le trait de Minotaro Mochizuki, donc celui qui a fait Dragon Head, est un peu. On peut le trouver un peu là-dedans, dans les expressions de personnages.
Voilà, donc c'était donc Le Quartier de la Lumière. C'est paru chez qui ? Ça coûte combien ?
C'est... Ah mince, comment ça se...
Alors, Le Quartier de la Lumière, on n'a pas l'éditeur. C'est dans la collection Made In, donc c'est Casterman, je crois, Made In. Donc c'est un one-shot. Et ça coûte non pas 1 euro, je vais marquer 1 euro, je crois que c'est plutôt 10 euros. Voilà,
c'est un gros format, c'est la question Made In. Franchement, prenez-le, jetez-vous dessus, ça vous aura vraiment
passé. Est-ce que c'est un one shot, Bruno ?
Ah oui, oui.
Oui, c'est un one shot, oui, j'ai marqué un volume. Voilà.
Donc voilà, pour les gens qui aiment les nouvelles, il y en a pas mal qui sortent en ce moment, c'est dans la collection Made In. On avait vu aussi Eisen et Beisen les dernières fois. Il y a pas mal de petites nouvelles qui sont en train de sortir comme ça. Même moi, la plupart du temps, j'ai un peu de mal avec les nouvelles parce que je trouve qu'on n'a pas le temps de développer les personnages. Je trouve que là, qu'on a des auteurs qui arrivent en très peu de pages à faire des choses qui tiennent la route.
Lisez aussi quand même si vous voulez des nouvelles dans la collection Saka, les recueils de nouvelles de Yo Kuroda. Nasu, Un été andalou et autres nouvelles. Non, et autres aubergines qu'il appelle ça.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et puis il y a toute une série sur ces aubergines. Voilà.
C'est à mon tour de vous parler encore d'un grand auteur. Voilà, c'est le retour des grands auteurs. Il s'agit de Tsutomu Takahashi. Alors, il ne s'agit pas de Rumiko Takahashi, hein, je vous le dis tout de suite, on pourrait confondre, mais pas du tout. Puisque donc, Tsutomu Takahashi, ça doit être un homme, je pense déjà. Et ses récits sont autrement plus durs, plus adultes, je dirais, que ce que Rumiko Takahashi a l'habitude de faire. Mais bon, bref. Tsutomu Takahashi, on est surtout connu en France.
C'était aussi le maître de Niei. Niei était son élève.
D'accord. Voilà, comme quoi il y a des liens quelque part. Et donc Tsutomu Takahashi est surtout connu pour avoir sorti plusieurs très très bonnes, très très bons mangas. Alors dis-moi si je me trompe, Bruno, mais il a fait Alive.
Alors on a eu en France Alive, Blue Heaven, Sky High.
Voilà, donc, Sky High Karma qui est quand même énorme.
Donc que des choses très courtes pour l'instant, mais avec déjà Sido. Dont on va parler là, Panini commence à se lancer sur des séries un peu plus longues. On va voir qu'il y a Jiraishin qui va pas tarder à sortir, je crois que c'est le mois prochain, qui est en 19 volumes, qui vient de se finir en 19 volumes.
D'accord. Et Sido
Et Sido, là, c'est en 8 volumes, la série est en cours.
D'accord. Alors, quel est l'intérêt de Sido ? Eh ben, donc Sido, on se retrouve sur des récits qu'on a déjà eu largement l'occasion d'en parler dans les semaines, les revues de presse précédentes. C'est toutes ces histoires donc de chambres
Gambara, en fait, qui se passe à l'ère d'Edo, donc à la fin du long ère moyenâgeux, japonais, au moment où les Occidentaux débarquent, au Japon et qui sont en train de tout casser. Donc, c'est la fin de l'ère des samouraïs. Ils sont en train de perdre leur pouvoir et autres. Donc, ça se passe super mal dans le pays. Et la plupart du temps, les restes que nous avons de cette période-là, c'est soit des personnages comme Kenshin ou soit Samurai Deeper Q. Des personnages qui sont des guerriers, des samouraïs, qui essayent de leur corps faire barrage à la déliquescence de la société qui sont autour d'eux. Donc c'est toujours des personnages plutôt actifs, des héros. Donc même si on peut ne pas être d'accord avec certaines de leurs actions.
Il y a aussi Gintama.
Il y en a plein. Tsutomu Takahashi, donc qui part sur une histoire sur la même période, avec, on pourrait dire, quasiment les mêmes personnages. Il va faire ces héros, ils vont être deux. Alors ça va pas être des grands guerriers, ça va être deux gamins. Qui s'appellent Shotaro et Gentaro, qui viennent de perdre leur mère parce qu'il y a une sorte d'épidémie de choléra.
Le choléra a été apporté par les Occidentaux.
Voilà. Et donc tout le monde est en train de crever. Et donc ces deux personnages-là vont se retrouver, mais tout seuls, dans un pays qui est en train de sombrer dans la violence et l'anarchie. Ils vont en prendre plein la figure. On est sur du récit, mais âpre, dur, pas une seule lueur d'espoir. C'est un récit différent sur une période qu'on a largement l'occasion de voir dans les mangas. Et donc si vous voulez voir, disons, cette période-là, mais du côté des victimes, c'est-à-dire les gens qui justement n'ont pas cette épée, n'ont pas la force pour se protéger, lisez Shido, ça va quand même super loin. D'ailleurs, c'est marqué pour lecteur averti.
Je comprends bien pourquoi.
Voilà, il faut pas avoir la larme facile pour lire ce récit. Moi, je suis pas persuadé que les deux personnages vont sortir vivants, parce que ils sont à la fin du premier volume, ils sont quand même dans les ennuis jusqu'au cou, et ça va très mal finir pour eux. Ils sont torturés et tout. Donc on est vraiment là dans du seinen, c'est-à-dire un récit vraiment très, sur une manière très adulte, sur une période vraiment pas drôle de l'histoire japonaise. On est plus. Alors, il n'y a pas vraiment de scénario qui émerge. On suis plutôt.
C'est un peu la reproche que je faisais au début. Enfin, disons qu'on part, on passe du coq à l'âne au début, quoi. Avant, à mon avis, d'atterrir dans une histoire. Au début, on est sur l'histoire des gamins. Puis après, on va être sur une rencontre avec un mec qui est un peu un brigand de grand chemin. Puis après, il va les amener dans un autre lieu où l'histoire repart encore complètement autrement, sur un pseudo-temple pour apprendre...
Une secte.
Une secte, mais pas une secte japonaise comme on peut la voir, mais plutôt une secte comme on la voit à nous, donc très mal... avec des
façons fous,
de penser. Donc voilà, on a trois façons de suivre. Ça casse un peu le récit, je trouve, ces trois passages.
Disons que c'est un peu un road movie, on pourrait dire. C'est-à-dire que il y a pas de but précis. Les personnages traversent le Japon et vont tomber successivement sur tout ce qui va mal dans
c'est
ce pays.
Chance,
et ça fait un peu l'effet Rémi sans famille quelque part. Ou Princesse Sarah, je sais pas. Mais
on est encore moins drôle.
On est encore moins drôle. C'est les deux personnages, ils ont aucune capacité, ils ont rien pour les sauver.
Ils ont tué un mec quand même au début.
Oui, mais un peu par hasard, ils le regrettent un peu. Mais c'est surtout que ils sont totalement en dérive. Et pour l'instant, il n'y a personne qui peut arrêter cette dérive. Enfin, on se dit, ça risque de mal finir quand même.
Et donc.
Tu as quelque chose à ajouter? Moi je l'ai pas lu, donc je pourrais pas ajouter grand chose. Donc la série est en cours, 8 volumes au Japon pour l'instant. Donc ça sort chez Panini, je crois. Comme tous les Takahashi.
Panini voilà. Comics encore.
Panini manga. Et donc c'est à 8,95€.
Ouch.
C'est le prix c'est le moins cher du Panini.
Oui, mais comparé aux 6,50€ d'Abara.
On est arrivé à la fin de la musique. C'est dommage.
Vas-y, remonte, je suis sûr qu'il y en a une autre qui a commencé.
Alors on est toujours avec Final Fantasy VI. Je vais te laisser présenter le Tezuka.
Je croyais que tu voulais le garder pour la fin.
Je vais le garder pour la fin, donc je vais en parler d'un autre truc. Je voulais faire une pause, mais c'est pas grave, ce sera pas pour toi pour l'instant. Encore un autre gros auteur, une grosse autrice. Bref, Je ne suis pas un ange d'Eiyazawa, dont le volume 1 vient de sortir. Je pense que c'est le seul volume qui va sortir. Je ne sais pas, je te demande de confirmer.
4 volumes.
C'est en 4 volumes. Ça va être énorme.
Il y a autre chose qui est énorme.
Le volume est énorme.
Le prix.
J'avais peur qu'on était parti sur autre chose. Voilà, donc je ne suis pas un ange d'Ayazawa, qui est Ayazawa est l'auteur de manga détentrice de tous les records ces deux dernières années avec sa série Nana, qui a vraiment non seulement un succès commercial puisqu'il a marché extrêmement bien, mais il a eu aussi un succès d'estime parce que jusqu'au deuxième volume, c'est quand même une putain de série. Et surtout, donc, comment s'appelle la boîte ? Delcourt fait vraiment toute une opération merchandising autour de Nana qui est vraiment énorme. Ils ont publié au moins un artbook donc de ce manga. Donc ce qui est quand même, les publications de artbook en français sont quand même, se comptent encore sur les doigts d'une main quand même. Voilà, donc il y a eu plusieurs.
D'ailleurs, je lance un appel à Glénat, on aimerait bien voir l'artbook de Niei.
Voilà. Donc ça, il y a eu
une manifestation une fois.
Il y a eu
ils organisaient une manifestation Nana un peu dans le style mode et tout.
Tout à fait, avec des filets de mode, avec présentation. Il y a eu les films Nana ont été achetés pour la France et tout. Donc voilà, ça arrive. Il y a eu des CD qui sont sortis aussi et des éditions spéciales de Nana. Donc vraiment, c'est un auteur qui marche vraiment bien, qui a fait un autre récit, un autre cycle qui s'appelle Paradise Kiss, qui est extrêmement bien. Je vous conseille aussi Gokinjou. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Mais avant d'être ce grand auteur, elle a fait plusieurs petites séries. Et donc, Je ne suis pas un ange est l'une de ces séries qui paraît en ce moment en France. Et Delcourt a décidé de le faire en version, je dirais, Bunko ou je ne sais pas quoi. En gros, c'est l'édition de Je ne suis pas un ange, c'est en fait l'équivalent de 3 volumes.
Oh oui, il y a bien 3 volumes là.
Voilà. Mais c'est un Bunko, mais pas au prix d'un Bunko.
Voilà. donc ça sort là. Alors, que raconte Je ne suis pas un ange? Eh bien, c'est un récit qui se passe dans un lycée et qui va raconter l'année scolaire donc d'une jeune fille, de l'héroïne, qui est la fille la plus sympa du coin, et qui va se retrouver amoureux d'une sorte de bad boys de Marseille. Non, je rigole. Donc la jeune fille s'appelle Midori et elle va tomber amoureuse donc d'un garçon qui donc un peu voyou, un peu badouze, mais en fait super sympa. Et donc on va raconter l'histoire de tous ces gens, donc ça fait faire partie d'une comité d'élèves et tout ça. Donc au cours de l'année, donc c'est sympa, mais ça ne vaut pas encore Nana. Bref, donc voilà, mais je pense qu'il y a des aficionados de Ayazawa qui vont quand même l'acheter une fois qu'ils vont savoir le prix.
Donc Je ne suis pas un ange, le premier volume est sorti, donc on l'a dit, chez Delcourt. Il va y en avoir 4, série terminée depuis longtemps, et à 15€ le volume. Voilà. Bah, vous avez l'équivalent de 3 volumes là-dedans. Donc
ouais,
voilà,
même, ça 15 fait euros,
3 pour le prix de 2 quoi, presque.
Ouais. Ouais, à peu près, ouais. Voilà.
D'accord. Donc Je ne suis pas un ange, donc devez savoir ce chez Delcourt.
Voilà. Ça, c'est le thème d'un personnage, mais je sais plus qui.
Ah bah, je sais pas moi qui pourrais le dire. Je ne connais pas du tout Final Fantasy. Donc, le dernier.
On va finir par un petit auteur. Hein.
Voilà.
Oui, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est inconnu partout. C'est un recueil de contes d'Osamu Tezuka.
Yes.
Ça crache un peu. Comme ça, là, on m'entend ?
Ouais, c'est bon.
C'est bon. Donc, Osamu Tezuka, là, on a un recueil qui s'appelle Tonkaradani.
Ouais, le titre est un peu à dormir dehors, quand même.
Oui, bah c'est juste.
Ah, c'est japonais, pour pas parler français.
Ouais, c'est japonais.
Voilà. Et donc ce recueil de contes, donc ça commence par un conte qui prend la moitié du bouquin à lui tout seul, donc qui s'intitule, que je retrouve le sommaire. Voilà. Tonkaradani, le val aux mésanges. Donc ça raconte quoi ? Ça raconte une petite vallée luxuriante où il se passe plein, où c'est beau, il y a les écureuils qui se battent pour choisir leur roi. Et ah oui, petit combat d'écureuils, oui, c'est assez formidable. Et cette petite vallée, elle est menacée par quoi ? Bah par les hommes qui veulent faire un barrage. Et alors les animaux, ils veulent pas évidemment, hein, parce qu'on va leur noyer leur vallée. Mais vous comprenez, ça va quand même alimenter 22 villes en dessous. Donc
Voilà, voilà, un gros dilemme. Mais bon, ça se passe pas que dans la vallée, puisque c'est du Tezuka, ça part dans tous les sens. Il y a le héros, donc c'est un petit écureuil qui est donc le fils de l'ancien roi des écureuils de Tongaladani.
Ouais, et puis qui se retrouve un peu
banni de chez lui par la force des choses. Il est recueilli par une petite fille qui perd la vue en le trouvant. Il se passe plein de choses. Ça, c'est du Tezuka. Il se passe un truc par case, en fait.
Exactement.
Surtout dans ce, il a un style différent à chaque fois, Tezuka. Mais donc le style qu'il adopte dans ce recueil de contes, c'est vraiment une action par case. Il perd pas de temps à décrire des actions, à faire de la lenteur, à faire du cinéma japonais. J'ai en tête quand Jérôme Félix nous parlait qu'il avait pas pu lire même pas du Urasawa parce que il trouve la narration trop lente, parce qu'on a trois cases pour le mec qui va aller prendre un verre d'eau, qui va boire son verre d'eau. Non, alors Tezuka, t'as même deux actions par case, hein, et hop, et il brade.
Donc voilà. Ça fait plaisir, hein, attention.
Et quand vous avez donc 50 pages sur une histoire, évidemment ça fait des histoires très riches. Je ne peux pas vous résumer cette première histoire. Les histoires suivantes sont un peu plus courtes, ça va d'une vingtaine de pages à certaines histoires de 4-5 pages.
Voilà. Et puis il revient même sur un de ses premiers personnages, Princesse Saphir.
Voilà, on a une histoire avec Prince Saphir en guest star, je dirais.
Forcément.
Voilà. Bon, c'est des contes pour enfants, hein, qui ne sont pas de lui. Il adapte un conte turc par-ci, un conte russe par-là, sur 5 ou 6 pages.
Il fait ce qu'il veut.
Voilà, voilà. Et c'est gigantesque.
Voilà, c'est un Tezuka en toute liberté.
Ça change du noir du début des deux qu'on a commencé à lire. Voilà. Celui-là, il est vraiment léger.
Ouais. Donc peut-être Marc, donc c'est notre quatrième comparse qui n'est pas là ce soir qui m'en parlait. On dirait que en fait qu'au départ c'était pas prévu pour être imprimé en noir et blanc. On a vraiment l'impression au niveau de, en tout cas sur la première histoire avec les lapins et tout ça, que c'était prévu pour être en couleur, un peu comme Unico a pu l'être.
Oui, effectivement, ouais, là c'est peint.
Voilà.
Bah, comme beaucoup de choses, hein. Voilà. Il y a beaucoup de mangas qu'on voit comme ça qui ont des chapitres peints.
Et puis surtout,
de temps
a priori,
en temps.
C'était ça devait être prévu pour être sur un plus grand format. Parce que il y a 4 bandes par
oui,
page.
Oui, effectivement. Effectivement, il y a 4 bandes par page.
Donc, ce qui fait que pour lire dans ce format-là, ça fait très petit, en fait. Donc,
bon, ça passe.
Voilà, c'est surtout bon. C'est mon manga préféré de la sélection, je le dis tout de suite. Parce que ne serait-ce que sur la première histoire, si vous êtes scénariste ou apprenti dessinateur, faut le lire parce que la maîtrise du scénario, de la mise en scène, du dessin est quand même énormissime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est fatal.
Oui, bah il raconte un truc par case et un rebondissement à chaque case et c'est énorme. Mais c'est pas, on n'a pas l'impression que c'est mal raconté. C'est vraiment, ça coule tout seul.
Du talent, quoi.
Ça coule tout seul. Ça se lit, c'est du Tezuka, quoi.
Voilà. Qu'est-ce bon, allez, on va résumer tout ça. Combien ou ça
Alors, Tonkaradani, ça sort chez Kanko. D'ailleurs, juste petite parenthèse, j'ai vu que il y a un manga en 2 volumes de Tezuka qui est aussi sorti chez Kanko, c'est Avaler la Terre, qui a pas l'air inintéressant.
Mais qui est quasiment impossible à trouver.
J'essaierai de mettre la main dessus. Ça sort chez Kanko et donc c'est juste un recueil, hein, c'est 6,95€. Voilà.
Ok, bon, bah on va résumer un peu tout ça et puis on va en finir. Allez-y.
Donc Abara. Voilà. 2 volumes chez Glénat, on attend le deuxième, 6,50€.
Voilà, si vous aimez les ambiances à la Alien et puis aussi à la Dark City, en fait, avec ces villes oppressantes, ces gros combats de monstres.
Si vous aimez Niei, si vous connaissez pas encore Niei, lisez Noise. Voilà, c'est un one shot qui a introduit l'univers de Blame. Ensuite, donc, on a Shido. De Shido, Tsutomu Takahashi.
Voilà, donc auteur d'un récit très dur sur donc des enfants dans un Japon en train de s'effondrer sur lui-même à la fin du Moyen-Âge japonais. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains.
Voilà, donc le premier volume sorti chez Panini Manga, 8 volumes en cours au Japon, 8,95€. Ensuite, on a Le Quartier de la Lumière. Alors, Le Quartier de la Lumière de Inio San Asano, dans la collection Made In de chez Casterman. Ça coûte 10€, c'est un one-shot, et c'est très sympathique,
apparemment. Voilà, c'est une suite de petites nouvelles autour dans un quartier.
Ensuite, on a Je ne suis pas un ange de Ayazawa.
Ayazawa, donc volume triple, contenant moult pages sur l'un des premiers récits de Ayazawa, auteur connu par ailleurs pour avoir fait Nana, Gokinjo et Paradise Kiss. Je ne suis pas un ange est l'un de ses premiers récits.
Donc le premier volume est sorti chez Delcourt, il y en aura 4 et c'est à 15€ le volume, donc 60€ la série complète, mais c'est des gros volumes. Voilà. Et ensuite, on a fini avec Tonkaradani de Osamu Tezuka.
Le prix est toute compétition.
Voilà,
il est fort.
6,95€.